Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pour y comprendre, Cube Radio. Isabelle Maréchal. Un rebelle naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal.
Le gouvernement du Québec vient d'allouer près de 5 milliards 600 millions de l'argent neuf, là, c'est sur 5 ans, pour le système de santé. On veut le rendre plus performant, plus humain. On veut ouvrir plus d'une vingtaine de nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées d'ici les 5 prochaines années. Bref, on veut faire beaucoup de choses. On veut améliorer la plateforme de rendez-vous Votre Santé, inspirée de Clic Santé. En fait, on veut beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je retiens qu'on va mettre encore presque 6 milliards en 5 ans dans un système qui bouffe beaucoup de l'argent des contribuables. On parle beaucoup de classe moyenne ces jours-ci, beaucoup d'impôts. Et sincèrement, c'est quasiment la moitié de l'argent qu'on reverse au gouvernement pour s'occuper de toutes sortes de dossiers qu'on met dans le dossier de la santé et des services sociaux. À un moment donné, il va falloir se demander, OK, est-ce que plus d'argent va nous amener au moins des nouvelles choses. C'est Einstein qui disait la folie, hein? C'est refaire toujours la même chose puis penser qu'on va avoir un résultat différent. Et c'est un peu ça qu'on fait. On met toujours plus d'argent dans le système en pensant que ça va avoir un impact, mais visiblement, il n'y a pas moins de temps d'attente à l'urgence, bien au contraire. Je voulais qu'on fasse un peu la tournée de tout ça avec quelqu'un qui a passé sa vie dans le système de santé. Elle est spécialiste en médecine familiale, c'est la docteure Christiane Laberge. Bonjour Christiane.
Bonjour Isabelle.
On pourrait s'en parler, on pourrait faire une série là-dessus Christiane, mais je voulais qu'on parle de cet argent nouveau. Comment on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps Christiane.
Absolument.
Comment prendre tout le dossier de la... Bon, il y a Christian Dubé qui nous promet une réforme, il le dit lui-même, ça va probablement faire bouger les colonnes du temple. On le souhaite parce que ça prend quelque chose de gros, là. Mais je voudrais t'écouter là-dessus.
Je te dirais que la première chose que ça prend, c'est de l'humilité. Hein? Plutôt que de mettre dans un puits sans fond, ça prend de l'humilité. Deuxièmement, M. Dubé a une force, c'est un gestionnaire. Donc, de demander une reddition de compte, il connaît ça, puis il est capable de lire ça. Ah ben, ça va déjà changer la donne. Quand on parle de garrocher de l'argent ou saupoudrer de l'argent en santé mentale, je veux bien. Isabelle, la santé mentale, ça commence par petit. Ça commence par les enfants du primaire et du secondaire, je dis bien les enfants, d'arrêter d'avoir leur cellulaire à l'école. Ça, c'est pas compliqué. Hein, tu passes un règlement, c'est terminé. Comme ça, tu n'as pas un multitâche, tu as un unitâche. On écoute, on suit la consigne, puis on fait le devoir qu'on est supposé faire au temps où on doit le faire. L'autre chose, c'est que quand on dit « Oh, mais ils ont besoin de leur ordinateur de travailler. » Non, ils ont besoin de leur attention et de leur vigilance. Quand tu as de la vigilance et de l'attention, tu es capable d'avoir du vocabulaire. Mmh. Quand moi, je te dis « Je suis chill », ça veut rien dire. Quand je te dis je suis frustrée, je suis peinée, je me sens rejetée, je me sens adoptée, je me sens aimée, je me sens... Tu as des émotions et ces émotions vont, avec le nom, trouver une solution.
Hey, écoute, j'adore ce que tu me dis, Christiane, parce que je te parle de santé, puis
oui,
tu me réponds avec l'éducation. Et c'est...
Absolument.
C'est tellement ça.
Et l'autre chose, c'est qu'on parle des cliniques IPS. Sauf que en médecine, on... Excuse-moi, mais on nous enfonce dans la gorge l'interdisciplinarité. Mmh. Interdisciplinarité. L'infirmière va en faire plus, le pharmacien va en faire plus, le docteur va en faire plus, le physiothérapeute. Mais on va avoir une clinique privée de physio, une clinique privée de chirurgie, mmh, une clinique privée d'IPS. On a un système qui s'appelle les CLSC, Centre local de services communautaire pour la communauté. Quand tu regardes le CLSC des faubourgs, quelle est la grosse problématique, toxicomanie, itinérance? À quoi s'adressent-ils quand ils font des plans? à l'itinérance et à la toxicomanie. Est-ce que la toxicomanie est un gros enjeu à Amqui? Peut-être pas autant. Peut-être que l'absence de logement, la pauvreté, l'insécurité alimentaire est plus un problème dans ce coin-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Donc, on a un système qui s'appelle les CLSC. C'est là, ça existe déjà. Sauf qu'il faudrait mettre de l'ordre là-dedans. Et ça, il n'y a pas un gestionnaire qui veut mettre ses culottes puis les habiter pour être capable de mettre de l'ordre là-dedans.
Mais toi, tu as déjà travaillé beaucoup avec les CLSC comme médecin de famille? Oui.
Oui. Oui.
Ça fait quoi un CLSC?
Un centre local de services communautaires est censé être adapté aux besoins locaux. Par exemple, je vais te donner un exemple. Nous autres, on avait au CLSC La Chine 5 écoles qui étaient appelées à l'époque Réseau La Chine, parce que c'est les 5 écoles qui étaient le plus en difficulté, qui étaient cotées comme telles. Il y avait un pédiatre qui a quitté à la retraite et il n'y avait plus personne pour prendre soin des enfants qui avaient un TDAH, entre autres, plus les autres comorbidités, problèmes d'éducation qu'il y avait là autour. Alors, l'école, les 5 écoles ont demandé d'avoir un docteur puis du monde pour les aider. On a mis sur pied une clinique TDAH, c'est-à-dire qu'il y avait travailleur social dans chaque école, il y avait infirmière, comme à l'époque, et il y avait docteur. Le docteur faisait le premier examen avec l'infirmière, etc., au CLSC, parce que tu comprends bien que ça prend une table d'examen, puis une toise, puis etc. Puis après ça, on suivait les enfants à l'école. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 5 ans, on a enlevé les travailleuses sociales de l'école, on les a mis pour plusieurs écoles. Donc, on n'avait plus cette approche aussi personnalisée. L'infirmière était aussi à grand déploiement, tu comprends? Mmh. Et la clinique, avec tu changes de direction, tu as plus d'enfants, bien là, je te jure, on se ramassait dans la chambre des fournaises en bas, là. Sans jeu de mots, là. Mmh. Donc, tranquillement, les parents qui, au lieu d'être appelés pour les enfants qui faisaient des mauvais coups, étaient appelés pour recevoir les félicitations. Parce que souvent, les professeurs venaient faire un petit coucou 15 minutes pendant l'entrevue qu'on avait avec les enfants pour dire, « Hey, j'ai remarqué que le petit, là, il se boit plus à l'heure de la récréation, puis maintenant, il est capable de tenir son rang, puis maintenant, il est capable de... » Donc, ce renforcement, cette attitude de collaboration école-parent s'établissait. Mais ça prend du temps.
Là, t'es beaucoup dans la prévention, puis ça, la prévention,
on c'est... On n'est pas juste dans la prévention, on est dans l'intervention.
Et dans l'intervention, t'as raison,
tout
t'as raison.
Oui. Et là, ce qu'on a fait, c'est que il y a des psychologues, OK? Le psychologue, il n'y avait pas de secrétaire. C'était pas sa job d'appeler les parents pour fixer le rendez-vous et confirmer le rendez-vous de demain. Résultat, comme ça coûte rien, taux d'absentéisme que j'approxime à 30%. Ben, excuse-moi, mais une psychologue qui est payée puis qui voit 2 patients par jour, pas rentable. C'est au privé, là, elle crèverait de faim. Donc, ce système de rappel, et l'autre chose, c'est qu'il faut que le patient soit impliqué dans sa thérapie. Hey, son parent, il y a un TDAH, il vit le chaos comme tout le temps, puis le petit loup, il y a un TDAH. Comment tu vas attacher tout ça? Non, quand tu fais les premiers rendez-vous, tu dis, votre appel est important pour moi, j'ai hâte de vous voir demain. Nous autres, on avait un taux d'absentéisme parce qu'on confirmait les rendez-vous à 0.01%. Donc, il y a des choses qu'on doit faire pour la clientèle, le temps de s'attacher à notre clientèle et que notre clientèle s'attache à nous. Tu comprends?
Ouais.
Mais ça, l'attachement, il n'y en a plus. Un problème, un rendez-vous, vous reviendrez pour le prochain.
Exact. Puis là, j'aimerais qu'on parle d'accessibilité à un médecin de famille parce que c'est ce que tu as fait toute ta vie. Et sincèrement, aujourd'hui, l'accès à un médecin de famille reste hyper compliqué. Il y a encore beaucoup de Québécois qui n'en ont pas et qui doivent se magasiner ici et là un médecin qui va... Puis là, écoute, le fameux GMF qui va te prendre en charge, le fameux, guichet, le gamme en attendant que tu en aies un pour vrai, mais là, tu reçois une lettre. Moi, j'ai une de mes filles qui en a reçu une, de lettre qui a donné comme une espèce d'accès plus rapide si elle a problème urgent. Mais elle a voulu parler au médecin d'un autre enjeu. Il a dit, ben là, moi, non. Là, moi, je fais juste un, c'est ça l'urgence. Là. Ça a duré 5 minutes et quart.
Écoute, moi, je ferais une enquête de la RAMQ. RAMQ, si vous écoutez,
ça marche pas, ça.
Hein?
Ouais.
Les docteurs de famille qui gagnent 500 000 et plus, puis je suis sûre qu'il y en a un bon paquet, je les signalerais parce que supposons que le docteur travaille 4 jours semaine, OK? 4 jours semaine, puis il voit, disons, il travaille 8 heures, puis il voit 80 patients dans sa journée, OK? Bien, ça veut dire que tu peux pas faire de la bonne médecine à 80 patients par jour, OK? Ça veut dire que tu passes, mettons, 10 patients à l'heure. On met ça juste comme ça. 10 patients à l'heure, ça mérite une évaluation aléatoire, entre guillemets, du collège. Et ça, ils en font. Ils en font. Des enquêtes aléatoires. En tout cas, sur les vieux docteurs, ils en font. Alors, effectivement, je commencerai à faire des petites évaluations. Parce que quand tu vois, Puis c'est drôle parce que je regardais Stat, tu comprends?
Oui.
Et je regardais l'urgentologue.
Stat de la série.
Le jeune, tout de suite, il saute sur le cœur avec son stéthoscope, puis tout de suite, son échographie que le médecin n'a pas dans son cabinet. Mais elle fait pas d'examen pour remarquer qu'il y a la zigounette tout amochée, infectée. Non. Puis qu'il y a de l'air souffrant. Non. Ça, on va traiter le cœur. Le cœur a un problème. Fait que, tu comprends-tu que là, un problème va nécessiter de multiples consultations.
Ouais.
Et moi, j'aimerais voir les docteurs qui gagnent plus que 500 000. Combien de fois les patients qu'ils ont vus le 16 octobre ont dû se présenter à l'urgence dans les 3 mois qui ont suivi ou ont dû se présenter dans d'autres cliniques et combien de fois?
C'est parce tellement un bon point, ça.
Ouais. Quand tu as un médecin de famille qui te voit pendant 20 minutes, t'es un jeune, là, on passe le message. Les jeunes de 25 ans, ils n'ont pas besoin de médecin de famille. Ben non, ils n'ont pas d'ITSS, ils n'ont pas de dépression, ils ne suicident pas, ils ne sont pas isolés, ils n'ont pas de toxicomanie ou de dépendance à leur maudit écran. Ils n'ont aucune dépendance, ils n'ont aucun problème de santé, ces enfants-là. Ils n'ont pas d'asthme, hein? Ils n'ont pas d'eczéma, ils n'ont pas mal à la tête. Ils n'ont rien. À 25 ans, t'as pas de problème.
C'est ça qu'on pense. Oui, exactement.
Mais ça, t'as entendu ça souvent, Isabelle. À 25 ans, ils n'ont pas besoin de médecin de famille. Oui, t'as besoin d'un repère. Oui, t'as besoin d'un pilier, ne fût-ce qu'un pilier de résilience qui va te dire « Comment ça va, le grand? Je te connais depuis que t'es petit. Tu rentres la tête entre les deux jambes puis tu marches les pieds par en dedans. De qu'est-ce qui se passe? »
Ouais. Mais ça, là...
pas important.
Comment on s'y prend? C'est un travail. Puis tu sais, on n'a pas parlé des syndicats aussi, des syndicats de médecins, des syndicats d'infirmières.
La misogynie élevée en système.
Bon, ben parle-moi-en de ça.
Ben tu vois, regarde Geneviève qui parlait, Geneviève Deschênes qui parlait des gestes à domicile, hein, que ce soit l'aide médicale à mourir, que ce soit les soins palliatifs, que ce soit les visites à domicile. Il y a, dans les soins palliatifs, 2300 docteurs qui font ça, là, paraît-il, selon la FMOQ. Moi, j'aimerais ça, connaître la répartition des femmes là-dedans. Puis, Geneviève disait qu'il y avait un tarif maximum de 7 jours. Tu comprends? Mais là, ils sont en train de négocier. Mais combien il y a de femmes qui sont limitées à 7 jours puis qui continuent, pareil, d'aller voir les patients parce qu'ils ont du cœur? Juste de même. Combien gagnent-elles par rapport aux gars? J'aimerais ça avoir ça, moi. Les salaires des femmes médecins au jour le jour. C'est une fois par jour, puis le salaire des gars, une fois par jour. J'aimerais bien savoir ça. J'aimerais bien savoir dans ton 500 000 combien t'as de filles. Juste pour le plaisir.
Mais toi, tu penses que les honoraires sont différents entre les médecins femmes et les médecins hommes?
Non, ils sont pas différents.
Mais les femmes vont traiter des dossiers que les hommes médecins ne traiteront pas.
Vont traiter moins.
Ouais.
Tout le problème de santé mentale, moi, je regarde la gang autour. J'ai une prépondérance de femmes en psychiatrie, en pédopsychiatrie. Maintenant, tu sais, tu comprends que si tu cumules sur les 40 dernières années, non, tu sais. Mais sur les dernières années, celles qui prennent soin dans tout ce qui veut dire les approches à prendre soin sont plus volontiers des femmes. Et si ça peut t'intéresser, Isabelle, tu sais, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Boule et reboule. Parce que il y a une vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube qui s'appelle 40 seconds to save a life. Et c'est un médecin de soins intensifs qui vous parle pendant 15 minutes. C'est un scientifique pur et dur qui a regardé les études, puis il a lu les papiers, puis tout ça, et qui dit qu'ils ont pris, par exemple, une fiche, ils ont fait apprendre un texte à des oncologues, OK, lors de la première visite en oncologie, et ils devaient dire à la personne, je sais qu'aujourd'hui, c'est la pire journée de votre vie ou à peu près, que je vous apprends, c'est pas drôle, mais vous êtes pas tout seul là-dedans. Je vais répondre à vos questions, je vais répondre à vos interrogations de vie, je vais répondre à tout ça au meilleur de ma connaissance et je vous accompagne là-dedans. Et en sortant, il leur disait, n'oubliez pas, on est deux à faire cette démarche-là et je vais être à vos côtés.
Wow.
Juste ces 40 secondes-là, là, Isabelle, ils ont sauvé, si je me souviens bien, 30% d'utilisation d'anxiolytiques.
Ah ben,
ils ont eu un meilleur pronostic au niveau du cancer.
Ouais.
Et tous les autres paramètres sont améliorés. Et ça a pris 40 secondes. Donc, les docteurs, ils disent, j'ai pas le temps. C'est pas vrai. Par contre, les questionnants, les formulaires, Isabelle, on a un formulaire.
C'est quoi? C'est 30% du temps. Il y avait un sondage qui est sorti récemment. 30% du temps du médecin, c'est de remplir de la paperasse. Puis ça n'a pas de bon sens. Christiane, On doit se laisser, mais sincèrement, c'est toujours un grand plaisir. On pourrait continuer cette conversation.
Tu sais que ton défi, c'est de m'arrêter.
Non, ce n'est pas un défi. C'est magnifique. Je veux pas t'arrêter, Christiane. On a besoin de ça. Merci, Dr. Christiane Laberge, spécialiste en médecine familiale.
Vous venez de vous connecter en direct.